Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au livre Poe Dameron Freefall ainsi qu'à l'audio-drama Dr. Raffer. Ici Francis et pour discuter de ce livre, je suis accompagné de la charmante Cécilie Allaire. Bonsoir Cécilie!
Salut Francis, salut à tous!
Et quoi de neuf côté Star Wars pour vous mademoiselle?
Je suis dans la relecture de Leia Princess of Alderaan.
Mm-hmm. Excellent livre.
Je me rappelais plus beaucoup vraiment en fait de l'histoire, donc j'ai décidé de le relire. Je me suis procuré l'audiobook aussi pour que ça aille un petit peu plus rapidement. Mm-hmm. J'ai aussi fait l'acquisition de mon premier casque Black Series.
Ouais.
Celui de Boba Fett. C'était un achat non prévu.
Compulsif, ça.
Ben oui, j'étais chez eBay Game, puis mon chum me l'a pointé, puis je fais « Ah, oh, je vais l'acheter.
Mm-hmm. » C'est un bon choix quand même.
Ouais. Puis j'ai acheté mes premiers sets de Lego. J'avais jamais eu de Lego dans ma vie avant.
Mm-hmm.
Donc j'ai acheté 3 sets, puis je les ai montés dans la même journée. Ça m'a pris à peu près 1 heure et demie pour tout les monter.
Ouais, ben faut préciser que c'est pas non plus des Faucons Millennium à 700 pièces, là, 5000 morceaux.
Non, c'est des espèces de dioramas. Il y a la scène quand Luke est dans la Trench Run pour détruire la Death Star. Donc ça vient avec le X-Wing de Luke et un canon de l'Étoile Noire. J'ai aussi la scène de Anakin et Obi-Wan qui combattent sur Mustafar.
Mm-hmm.
Et j'ai aussi acheté le Land Speeder de Luke qui vient avec une petite hutte de Jawa.
Ben, c'est excellent.
Ouais.
De mon côté, quoi de neuf dernièrement, ben déjà les gens dans le chat et dans qui nous suivent sur Discord ont peut-être vu passer là, que moi de mon côté, en termes d'achat, c'est le reste de ma famille qui achète. à ma place. Donc, c'est ça, ma femme et ma fille sont revenus avec une facture de plusieurs centaines de dollars. Un peu comme toi, là, sont tombés sur les derniers spécimens en magasin du casque, un peu, on pourrait dire le casque de Boba Fett, mais en fait, là, c'est le prototype de Boba Fett, version toute blanc. Là. Dans le fond, c'est plus un prototype, c'était supposé être des super commandos, si je me souviens bien. Quand ils ont créé ces prototypes-là, finalement, c'est ça, ils ont gardé le concept pour faire Boba Fett. Mais faut avouer que c'est quand même très classe. Et, j'ai les deux, là. J'ai celui de Boba Fett comme celui que tu as acheté. Il y a quand même quelques différences. Là. C'est pas juste une peinture blanche. Toute la partie supérieure, dans le fond, là, où est-ce que Boba Fett, dans le fond, il y a son espèce de puck qui a reçu un coup de fusil. Là, dans le fond, c'est une partie parfaitement lisse. Là, sur le dessus, il n'y a aucun défaut. Là, et des petites couleurs différentes. En tout cas, bref, c'est quand même très beau. Et celui aussi du Flametrooper, dans le fond, celui qu'on a vu dans Le Mandalorian, dans le dernier épisode, qui est quand même très cool. Très, très cool. Et contrairement à aux autres casques de Stormtrooper qu'on avait eu chez Hasbro jusqu'à maintenant, celui-là, il y a du faux, de la dégradation, on va dire, là, un peu comme celui de Boba Fett, mettons, là, donc du winnering, là, comme on dit, là, bref, il y a l'air sale, tout ça, à l'image de la série Mandalorian, hein, où est-ce que les Stormtroopers sont quand même négligés, on va dire, un peu. Et un petit bébé Yoda aussi, là, en peluche, là, ma fille Tamara était très contente de sa trouvaille. Sinon, quoi de neuf? Ben, j'ai pas encore débuté. Il y a le nouveau Timothy Zahn qui vient de sortir en livre. Hein, donc, Chaos Rising. Je l'ai pas encore attaqué. Je suis encore sur l'anthologie de Clone Wars. Là, ben, ça s'appelle juste The Clone Wars, dans le fond. Et je pense que c'est ça, toi aussi, hein, t'étais dessus.
Ouais, j'ai commencé l'audiobook.
Mm-hmm. Puis c'est j'ai rarement eu autant peu de motivation par contre à continuer une lecture ou un audiobook. Là, faut avouer que je m'attendais à quand même beaucoup plus d'ajouts aux histoires. Dans le fond, pour faire un topo rapide, là, pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est vraiment une anthologie. Là, c'est vraiment des épisodes de la série de Clone Wars qui sont racontés du point de vue d'un des personnages. Par contre, c'est ça, je m'attendais peut-être à un peu plus de scènes additionnelles, on va dire. Là, c'est vraiment très très limité. Les principaux ajouts, ça va être des références au reste de... comment dire, des créations Star Wars qu'il y a eu depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, dans un, par exemple, on va faire référence aux fatiers, là, tu sais, les espèces de chevaux de course, dans le 8. Ouais. En tout cas, quelques références, c'est ça, à la postlogie, ou en tout cas, à des éléments qui, dans le temps de The Clone Wars, dans le temps de la création de la série, ça n'existait pas encore. Fait que là, ils essayent de raccorder tout ça, là. Avec Rogue One aussi, il me semble qu'il y avait une référence. Mais au-delà de ça, faut avouer que l'intérêt, je le trouve... un peu limité, ouais. Un peu limité. On va rappeler nos émissions récentes. Le plus récent, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, un Star Wars en direct express fait par notre collègue outre-Atlantique, Céline. Une entrevue avec un des créateurs du nouveau jeu Unlock version Star Wars qui vient de sortir. Donc, et je peux tout de suite vous annoncer qu'il va y avoir d'autres petits contenus Star Wars en direct là, en lien avec ce nouveau jeu Unlock qui a de l'air quand même... assez populaire, hein? J'ai vu quand même un certain engouement là, pour cette version-là de Star Wars. Les gens qui ne connaîtraient pas du tout, là, c'est un escape game, comme ils disent en France. Ici, on dirait plus un jeu d'évasion. Mais au lieu de vous déplacer dans un local commercial quasi abandonné, cette fois-ci, c'est chez vous, dans le confort de votre salon, là, où est-ce que vous recréez ces scénarios-là. Fait que ça a l'air très bien, j'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Toi, pensais-tu te procurer ça, Cécilie?
Probablement. Ça va juste dépendre si j'ai des gens avec qui jouer, parce que jouer tout seul, ce serait peut-être pas idéal. Là.
Ouais, ça joue à deux minimum, c'est sûr. Faut que tu aies au moins deux.
Je verrai si j'ai des gens, mais probablement, c'est sûrement un jeu que je vais me procurer dans un futur proche. Mm-hmm.
On espère que la disponibilité va être là, hein, parce que j'ai cru comprendre que... peut-être encore à cause des problèmes de poste avec la COVID. Là. Je sais qu'il y a des magasins qui ont eu de la misère à avoir le stock. Fait que là, en tout cas, à la date de sortie comme telle, j'ai vu plusieurs commentaires passer comme quoi il n'était pas encore disponible. Fait que on va espérer que ça se place. J'imagine que ça va être le cas. Sinon, on vous invite à prendre, si vous n'avez pas déjà fait, notre dernier Star Wars en direct littérature. C'était sur le thème de tous les comics de l'ère de la Résistance. Donc, cette fameuse... ce beau projet de Marvel qui constituait en 27 one-shots. Les gens qui ont écouté les émissions ou qui ont vu mes commentaires savent que j'étais pas un grand fan du concept là, dès le départ. Je trouvais que c'est vraiment un... En tout cas, j'allais dire une expression qu'on n'a pas le droit de dire en ondes maintenant. C'est parce qu'il contient un mot « oni » par les jeunes là, qu'on n'a plus le droit de prononcer. Mais bref, c'était une mauvaise idée, mais je vous invite à aller écouter ça avec Loïc et Malgus, là, qu'on a fait la critique non seulement des 9 derniers numéros, ceux de la Résistance, mais aussi de la série au grand complet. Et sinon, en ce moment, du côté de Star Wars 101, on est en mode de reprise, donc sur Facebook directement, fait que ça nous permet de rejoindre quand même beaucoup de gens qui ne les avaient pas vus passer sur YouTube au moment de leur sortie l'hiver dernier. Donc, on rappelle que pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements en live, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord, et puis pour montrer vos couleurs, on vous invite à vous diriger vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer toutes sortes de produits dérivés, surtout des t-shirts, mais il y en a pour tous les goûts, des robes, des coussins, des coquilles à téléphone, etc., etc. Et non seulement l'effigie de Star Wars en direct, mais de Star Wars en général. Il y a plusieurs concepts très très cool là, créés par notre leader suprême, Danny. Donc je vous invite à aller voir ça. Juste aller sur notre site et il y a un lien direct. Là, donc Star Wars en direct. StarWars.direct/boutique. Et on remercie nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. Et sur ce, Cécilie, on va passer en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Côté actualité littérature, c'est relativement mollo là, en dehors de ce qu'on a déjà mentionné, la sortie de l'anthologie de The Clone Wars et celle de Tron Ascendancy Chaos Rising. Donc c'est ça, on n'a pas eu là, des tonnes de nouvelles, ni côté américain, ni côté France. Donc on va passer très rapidement sur le point actualité. Et sinon, à ce moment-là, on va se lancer en première partie. On va commencer par l'audiodrama de Dr. Aphra. Donc, évidemment, bon, c'est une émission de littérature, mais on a quand même mis l'audiodrama dans l'émission. Parce que, vous voyez, la dernière fois, l'audiodrama, il a été relativement vite, publié en version livre.
Ouais.
Donc, on ne sait pas si ça va être le cas cette fois-ci, mais bref, vous êtes bien dans un Star Wars en direct littérature et on va parler d'une œuvre sortie exclusivement pour vos oreilles. Donc, Cécilie, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture de la présentation de l'éditeur?
Oui, docteur Shelley Lona Aphra, archéologue rebelle, est de nouveau en danger. Pionnière dans le domaine xéno-archéologie criminelle, Aphra ne reconnaît aucune loi, n'a aucune peur et ne contrôle pas ses impulsions. Pour elle, les reliques galactiques qu'elle trouve n'ont de valeur que si elles se trouvent dans un arsenal, non dans un musée. Ce point de vue a généré de nombreuses incompréhensions après que son dernier plan a mal tourné. Ses méthodes rebelles sont sur le point de la rattraper lorsque Darth Vader, terreur de la galaxie, balaie l'air de son sabre laser et lui sauve la vie. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme si elle était ingrate. Bien sûr, son nouveau patron est un seigneur Sith et, d'accord, elle est sûrement devenue un pion au sein d'un jeu mortel entre lui et son patron qui s'avère être l'empereur. Et oui, l'espérance de vie de quelqu'un qui déçoit Vader se compte en secondes, mais elle est de retour pour faire ce qu'elle fait de mieux. Elle a un vaisseau à piloter, une arnaque à monter et deux compagnons de métal peu orthodoxes mais efficaces. 000, un droïde de protocole dans l'étiquette, les coutumes et la traduction ainsi que la torture, et BT-1, un astromécano dont la puissance de feu suffirait à détruire un croiseur de combat. Ensemble, ils devront trouver un moyen de faire le boulot et d'éviter le bilan mortel qui les attend à la fin.
Ouais, parlons un petit peu des informations techniques avant de tomber dans nos critiques. Comme je disais tantôt, c'est le deuxième audio-drama donc de Star Wars jusqu'à maintenant. Le premier était Dooku Jedi Lost il y a un an et demi environ.
À peu près, ouais.
Ça avait quand même connu un certain succès, faut dire. Surtout au niveau de l'histoire, les gens avaient été quand même enchantés d'apprendre tout ça. Donc, ils reviennent cette fois-ci avec un concept différent. Donc, on n'est pas dans de la nouveauté, là, des nouvelles histoires. C'est vraiment, ça reprend les aventures d'Aphra, de son apparition dans les séries Dark Vador de 2015, la série Star Wars qui se passait en parallèle, et aussi le crossover Vador abattu qui avait mêlé les deux séries. Et c'est ça, ça ajoute quand même quelques éléments, là, aussi des comics Dr. Aphra plus récents, donc des éléments par exemple en flashback là, sur son passé, et quelques scènes inédites, là, quelques petits ajouts. Et le concept, c'est que le tout est narré par Aphra elle-même, qui dicte ses mémoires, si on pourrait dire. Donc c'est vraiment, là, on est dans sa tête, on a ses commentaires, ses points de vue. Donc c'est vraiment pas comme si c'était une histoire là, racontée de l'extérieur. Mais malgré tout, on a une distribution complète. Là. Fait que c'est pas comme un audiobook traditionnel où est-ce qu'on a un seul lecteur. Là, c'est vraiment, là, chaque personnage a son acteur, on va dire, qui fait la voix. Dans le fond, c'est une œuvre de Sarah Kuhn. Écoute, là, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. C'est sa première participation dans l'univers Star Wars. On l'avait pas vu jusqu'ici. L'œuvre, on peut dire que ça se passe de 0 à plus 1. Dans le fond, sur la chronologie, là, ça commence un peu, très peu de temps après la destruction de l'Étoile de la Mort. L'audio drama dure 5h35, fait que c'est relativement comparable là, à celui qu'on avait eu sur Dooku. Et on peut peut-être mentionner, c'est la première présence de Aphra, dans un médium hors comics.
Ouais, c'est vrai.
Elle avait eu une petite nouvelle dans le recueil là, From a Certain Point of View, mais au-delà de ça, c'est ça, à l'écrit, on la connaissait, mais pas du tout à l'audio. Fait que je pense que c'était un peu l'intérêt de cette œuvre-là, c'était de faire découvrir le personnage à des gens que, c'est ça, les comics, puis tout ça, ça les intéresse pas du tout. Donc, cela étant dit, Cécilie, si je te demandais qu'est-ce que t'as pensé en mode non-spoilers, parce qu'on va... On va faire quand même une petite aparté spoilers tantôt là, pour les gens qui ne voudraient pas se gâcher des punchs. Qu'est-ce que tu as pensé de cet audio-drama de Dr. Aphra?
Oui, ben moi j'ai adoré... Moi j'aime beaucoup en fait le format audio-drama parce que ça permet à l'histoire d'avoir plusieurs voix. Parce qu'un audiobook normal, il va avoir un narrateur, puis si c'est une fille qui doit faire les voix de gars, ben tu sais, c'est plus ou moins bien réussi. Puis si c'est un homme qui fait des voix de femme, ben c'est plus ou moins réussi. Tandis qu'un audio-drama, ben, si c'est une fille qui parle, ça va vraiment être une femme qui va le faire. Donc, j'apprécie beaucoup le fait qu'il y a plusieurs acteurs qui font l'audio-drama. Mm-hmm. Ça l'ajoute comme quelque chose de plus, comme une expérience supplémentaire. Puis, le personnage d'Aphra, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je la trouve très intéressante et elle est différente des autres personnages dans l'univers de Star Wars. J'ai aussi aimé la présence de personnages qu'on connaît dans l'histoire. Mm-hmm. Surtout celle de Darth Vader. C'est pas vraiment un spoiler, ça, mais... aussi, j'ai apprécié la longueur. J'ai trouvé que c'était assez raisonnable parce que souvent, les audiobooks peuvent être très longs, genre une dizaine d'heures. Puis celui-là, c'était juste 5h30, donc c'était assez compact. Donc, ça pouvait s'écouter dans une journée ou sur deux jours. Pour moi, c'était parfait. Mm-hmm. J'ai trouvé que la narration était bonne. Par contre, par moment, j'ai trouvé qu'Aphra me tapait un peu sur les nerfs.
OK.
J'ai aussi aimé le fait qu'elle travaille avec Vader, parce que c'est un de mes personnages préférés. Puis d'avoir sa présence en audiobook, c'était incroyable. J'ai trouvé qu'il y avait un... J'ai trouvé ça différent de Dooku. Mm-hmm. Il y avait un... Je sais pas comment dire en français, mais il y avait un vibe complètement différent de l'autre audio-drama.
Ouais, ouais.
Puis, ouais, c'est ça.
Ouais, ben, comme tu dis, effectivement, c'est pas du tout le même genre d'ambiance, là.
Non, c'est ça, c'est ça.
Moi, écoute, de mon côté, je mentionnerais le concept de la narration par Aphra. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à cette œuvre-là, parce qu'autrement, on serait encore dans le même cas que ce que je disais tantôt pour l'anthologie de The Clone Wars. T'sais, on serait dans des histoires qu'on connaît déjà, mais racontées un petit peu différemment. Là, on est vraiment avec la personnalité d'Aphra. C'est vraiment, vous y croyez, c'est crédible. On a vraiment l'impression d'écouter Aphra, même si on ne l'avait jamais entendu parler jusqu'à maintenant. On avait juste lu ses aventures là, sur papier. Donc, c'est bien le fun d'avoir ses pensées, tout ça. Elle fait des petites pauses souvent. Dans son enregistrement. Donc, elle arrête l'enregistrement, puis elle fait des commentaires. Fait que, ça vient comme ajouter, c'est ça, à toute l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'interaction avec les autres personnages. Je m'étais noté, entre autres, avec Han Solo, que tu sais, c'est quand même très miroir, là, les interactions qu'ils ont, ces deux-là. Et avec Sana Staros, personnage des comics, et qui a été aussi dans le livre, là, Last Shot, Baroud d'honneur en français. Mm-hmm. Donc, Sana Staros qui est présente pas mal là-dedans, fait que j'ai bien aimé. T'as parlé de si elle te tapait ses nerfs.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de l'actrice là, qui joue son rôle. J'ai trouvé que c'est ça, ça le rendait très bien, mais effectivement, ça tape ses nerfs dans un sens, mais c'est ça, je trouve que ça fit avec le personnage qui est vraiment quelqu'un d'insupportable, de complètement pété là. Souvent les gens vont beaucoup comparer la série Dr. Aphra à du Gardien de la Galaxie chez Marvel, t'sais, donc avec un ton beaucoup plus humoristique puis déjanté puis décalé par rapport à ce qu'on connaît normalement dans Star Wars, que même s'il y a de l'humour, t'sais, d'habitude c'est sérieux quand même, puis mais avec Aphra c'est comme écouter un Die Hard là, c'est complètement là, inconséquent et mais bref, me suis noté aussi que j'ai eu plusieurs pouffées de rire et des grands sourires lors de l'écoute. Fait que tu sais, ça prouve que l'effet comédie est réussi là, quand que t'es tout seul à écouter ça puis tu pouffes de rire.
Oui.
Mais si t'es dans un autobus ou avec d'autres personnes, ils vont se demander ce que t'écoutes.
Ça, c'est vrai.
Ouais, ben, tu sais, c'est... au pire, ils vont penser que t'écoutes la radio, là, les grandes gueules ou des affaires comme ça, des émissions comiques. Mais bref, plusieurs nouvelles infos quand même. J'ai été agréablement surpris. L'inverse de ce que je disais tantôt pour The Clone Wars. Là, cette fois-ci, on a droit à quand même beaucoup de détails supplémentaires, plus en fait que ce que je m'attendais. Donc, dans ce sens-là, j'ai été agréablement surpris. Si je pouvais, pas nécessairement du négatif, mais je me demande l'intérêt comparé à celui de Dooku, là, l'intérêt qu'il y aurait à avoir ça sur format écrit. Comme l'autre qui était sorti peu de temps après en format écrit, c'était un peu comme un script dans le fond qu'on lisait. Celui-là, je me demande, je serais quand même surpris que ça finisse par sortir au format écrit. Vu que c'est quand même à quoi 90% du contenu qu'on a déjà eu.
Ouais, on dirait que c'était un peu sorti de nulle part. On dirait qu'il n'y avait pas d'idée. Ils voulaient faire un audio drama, puis on dit on va le faire sur Afra, ça va leur permettre de connaître le personnage, mais on va réutiliser du contenu déjà fait.
Ben, c'est ça, tu vois. Ça m'amène, c'est ça, la parfaite transition à mon dernier point, c'est tu te demandes pourquoi ce projet-là. C'est pas que j'ai pas aimé, mais tu te dis, il pouvait faire n'importe quel autre personnage, des nouvelles histoires, etc. C'est quoi l'intérêt là, derrière ça? Donc, je pense, un peu comme on a dit, le but était de faire connaître le personnage à des gens qui la connaissaient pas, ou qui avaient juste entendu parler d'elle, mais vu qu'ils lisent pas les comics... Fait que moi, personnellement, l'impression que ça m'a laissé, c'est que c'est peut-être en préparation d'autres choses. Parce que faut le mentionner, là, autant on a des. Par exemple, dans Star Wars en direct, on a plusieurs membres de l'équipe qui détestent Afra, là, qui n'aiment pas du tout le personnage. Il y a GF, entre autres, ici au Québec, il y a Loïc en France là, qui l'aime pas du tout. À chaque critique qu'on fait des albums de Dr. Afra, là, il se peut plus. Mais à l'inverse, c'est un personnage vraiment clivant que soit t'aimes, soit t'aimes pas. Donc, mais en tout cas, aux États-Unis, clairement, les gens aiment. C'est vraiment, ça a des excellents tirages. Et faut dire que pendant longtemps, j'ai l'impression que c'était quand même la meilleure des trois séries ongoing qu'on avait, là, avec Darth Vader et Star Wars à cette époque-là, là, dans les environs de 2015-2016. Fait que dans ce sens-là, je pense qu'ils ont vu qu'un personnage était quand même assez populaire, puis ils se sont dit on va l'essayer sur d'autres médiums. T'sais, tranquillement, pas vite. Fait que je dis pas qu'on va la retrouver moi, dans une émission de télé là, ou dans un film à un moment donné, mais je sais pas, peut-être justement comme personnage très secondaire, là, une apparition, quelque chose dans autre chose, ça je serais quand même pas surpris. Parce que c'est. Puis j'ai tellement trouvé l'adaptation réussie par l'actrice et par l'auteur que. C'est ça, ça me laisse l'impression là, que c'est en vue de quelque chose d'autre. En tout cas, je vais le souhaiter. Si je te demandais une note sur 20, Cécilie, comment tu noterais comment ce deuxième audio-drama-là?
Je donnerais 17 sur 20, donc 85%.
Okay. Ben, tu vois, même chose pour moi, 17 sur 20. C'est certain que... moi, quand je note aussi un peu en négatif. Puis, tu sais, à la fin de l'écoute de tout ça, je me disais, qu'est-ce que j'aurais à reprocher à cette œuvre-là? Ben, à la limite, il y a le fait que c'est du contenu qu'on a déjà vu, mais tu sais, parce que c'est ça le concept. tu peux pas non plus reprocher. T'sais, tu le sais en l'achetant, là, que ça reprend les comics. Donc, si t'as pas envie de cette histoire-là, achète-le pas. Ouais. Si tu l'achètes, tu sais que tu vas revisiter ça. Mais non, c'est ça. Moi, je trouve que ça mérite quand même un bon 17 sur 20, un bon 85%. Fait qu'on est unanime pour ce Dr. Afra version audio-drama. Et sur ça, on va passer en partie spoilers relativement courte, parce qu'encore une fois, je vais me répéter, mais comme c'est une adaptation des comics, on va pas vous refaire les moindres péripéties, les moindres détails de l'histoire. La plupart d'entre vous, probablement, les connaissez. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé rapide, là. Donc, on débute, dans le fond, lors de l'opération cambriolage d'un site académique là, où Afra veut mettre la main sur une ancienne matrice de droïdes très dangereuse. Et j'ai-tu précisé là, aux gens de revenir nous voir dans 5 minutes s'ils voulaient pas de spoilers? Peut-être qu'on va le mettre, on l'a précisé. Je pense que j'ai oublié de le faire. Fait que revenez dans 5 minutes, on devrait être passé à notre prochaine œuvre. Donc, c'est ça, Afra veut mettre la main sur une matrice droïde, dans le fond, celle de son futur 000. Elle réussit son coup, mais son opération à son image, à savoir Bordelic, est interrompue par Vador lui-même, qui l'a débusqué pour la recruter. Donc, en effet, suite à son désastre lors de la destruction de l'Étoile de la Mort par les rebelles, l'Empereur a un peu mis de côté Vador. Il forme même des remplaçants, là, si on peut les appeler comme ça. Et il veut donc utiliser les talents particuliers, faut dire, de Dr. Afra pour se créer un fonds discrétionnaire, ramasser un peu de financement, et une petite armée personnelle pour la suite de ses projets. Donc celle-ci va bien sûr accepter, en fait, elle n'a pas vraiment le choix. Et Vador va la laisser néanmoins développer ses deux fameux droïdes là, que tu as mentionné tantôt, deux droïdes psychopathes 000, un droïde de protocole noir et avec les yeux rouges et adorant la torture d'être vivant, tout équipé pour le faire d'ailleurs, et BT-1 ou BT-1, un astro-mécano transformé en véritable arsenal roulant, là, c'est pas mêlant, surarmé, toujours prêt à tuer ou à détruire tout ce qui bouge ou tout ce qui peut. La première étape, dans le fond, de cette opération-là, c'est un casse financier, là, un cambriolage par Afra et des chasseurs de primes qu'elle engage. Le tout orchestré là, minutieusement, mais dans le style typique d'Afra, donc à savoir rocambolesque, mais très ingénieux et surprenant. Donc avec Afra, on manque pas de surprise, ça, on peut le dire. Ensuite, direction Geonosis pour réactiver une fabrique à droïdes commando. Donc Vador, qui voulait une petite armée, va avoir une armée de droïdes commando. Et dans le fond, Vador obtient ce qu'il voulait. Et à un certain moment, Afra, dans le fond, est dans ses pensées. Elle croit même vraiment avoir acquis le respect de Vador, tu sais, qui va la considérer à sa juste valeur, etc. Toutefois, sa mission évolue assez vite lorsque Vador apprend par Boba Fett, qui avait embauché Boba Fett, le nom du rebelle ayant fait sauter l'Étoile de la Mort. Il s'agit d'un certain Skywalker. Donc, évidemment, Vador comprend que l'Empereur l'a trompé et que son nouvel objectif est clairement de renverser l'Empereur pour prendre sa place. Mais il veut d'abord retrouver Luke, dans le fond, là, c'est ça, pour régner comme père et fils, comme on entend, dans l'Empire Contre-Attaque. Afra réussit alors à découvrir, pour le compte de son maître, l'emplacement du jeune Luke Skywalker et le communique à Vador. Cependant, quand le Seigneur Sith se pointe sur place, seul dans son chasseur, il se retrouve devant des centaines de chasseurs rebelles qui étaient en plein exercice au-dessus d'une planète. Donc, en pleine communication avec Afra, il laisse entendre qu'il croit qu'elle l'a piégé, puis ça coupe à cause de la bataille qui s'ensuit. Donc Afra comprend qu'elle est un peu dans la merde. Elle se dit que ça sert à rien de tenter de fuir Vador, qui va nécessairement finir par la retrouver. Donc il vaut mieux tenter de capturer Luke elle-même pour pouvoir le remettre à Vador en espérant avoir sa clémence. Et une fois sur place, dans le fond, quand elle arrive là, l'appareil de Vador a été abattu par Luke et s'est crashé à la surface de la planète. Donc vous comprenez qu'à ce moment-là, on est dans le crossover Vador abattu. On va mentionner aussi, c'est Luke qui a battu Vador là, en se sacrifiant presque, là, en fonçant carrément dedans avec son X-Wing. Une fois à la surface, elle aussi, elle repère les amis connus de Luke, donc Han, Leia, Chewie et les droïdes. Donc, elle veut les utiliser pour qu'il les mène à Luke. Ça en suit plusieurs péripéties entre l'équipe du Big Tree là, et l'équipe d'Afra, parce qu'elle est aussi accompagnée de ses droïdes et Black Crescenten. Bon, je ne sais jamais comment le prononcer, là, mais bref, le Wookiee noir là, qui se tient avec elle. À un moment, en voyant Vador en difficulté en duel contre un des remplaçants de l'Empereur, elle va même sacrifier son propre vaisseau là, en le garrochant sur l'ennemi de Vador pour l'aider. Mais Vador s'en moque complètement et il l'abandonne seul sur place, sur la planète assez désertique, on pourrait dire. Donc, elle est alors capturée par Leia, et qu'il la considère comme une source précieuse de renseignements, là, vu qu'elle côtoyait Vador depuis un certain temps. Au travers des péripéties déjà vues dans les comics, on a droit à plusieurs ajouts sur l'époque universitaire d'Afra, où est-ce qu'elle est devenue docteur, évidemment, donc avec sa relation aussi avec la future contrebandière Sana Staros, et tout le passage aussi sur son enfance avec son père, qui était complètement obsédé par ses recherches sur des anciens Jedi, et sa mère qui va essayer de la faire échapper à tout ça, de la protéger, mais qui va échouer, dans le fond, à la protéger. Elle se réveille, Aphra se réveille, dans le fond, longtemps après, prisonnière des rebelles sur un vaisseau, prisonnière de Leia et de son ancienne flamme Sanastaros, qui a été embauchée par les rebelles. Et qui la déteste clairement. Ça s'est mal fini entre eux. Les deux femmes la conduisent à une prison rebelle cachée au plus près d'un soleil vraiment intense. Mais peu de temps après sa mise en cellule, la prison est attaquée par un mystérieux groupe mené par un ancien espion rebelle qui s'est radicalisé, si on peut dire, voulant montrer à l'Alliance ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, il est là pour tuer tous les prisonniers impériaux que les rebelles, eux, refusaient d'exécuter, puis gardaient emprisonnés. Leia libère alors Aphra au grand désespoir de Sanastaros et elle lui offre de l'aider à combattre les assaillants. Donc la situation est assez désespérée à un moment jusqu'à l'arrivée salutaire de Anne et Luke qui avaient reçu le message de détresse que les filles avaient envoyé. Donc en échange de son aide lors de cette fameuse attaque, Leia décide de libérer Aphra. Elle considère de toute façon comme une condamnée à venir, là, vu que Vador va tôt ou tard la retrouver, puisque dans le fond elle est au courant de ses petits secrets et de son plan de renverser l'Empereur, etc. Donc Aphra réfléchit à tout ça et elle élabore à ce moment-là un plan ultime là, pour s'en sortir, à savoir d'aller dénoncer Vador à l'Empereur. Sauf que l'Empereur, en bon site, au lieu d'en être scandalisé, il félicite Vador au lieu de le réprimander et il offre Aphra à Vador pour qu'il s'en débarrasse. Ils sont alors là, sur le futur Super Star Destroyer qui est en construction. Et comme Aphra avait déjà confié à Vador que le temps venu, elle préférerait qu'il la tue de façon propre, donc par étranglement ou mieux par sabre laser, et elle lui avait dit que le pire, son pire cauchemar, serait d'être éjecté dans d'un sas là, vers l'espace, donc dans le vide de l'espace, de suffoquer comme ça. Et bon, ben évidemment, c'est exactement ce que Vador va faire. Il va l'éjecter dans le vide et la regarder ou la sentir mourir dans le vide de l'espace. Mais Aphra avait anticipé le coup et son équipe la récupère rapidement là, dans un vaisseau, comment dire, furtif, si on peut dire. Donc c'est ça, Aphra qui s'était dit, ben au pire l'Empereur va être content de ma révélation puis va me protéger de Vador, ou à l'inverse, Vador va me tuer de cette façon-là et mon équipe va pouvoir me récupérer. Fait que c'était vraiment un coup de poker qui a payé. Et en comics, ben c'est là qu'on voit la fin de la série Vador et le début de la série Docteur Aphra. Donc en termes de spoilers, je sais qu'il n'y a pas tant, des tonnes de choses à dire en version spoilers, mais est-ce que tu aurais des éléments, Cécilie, là, que tu voulais aborder qui concernent certaines révélations de l'histoire?
Oui, la présence de Bosk.
Oui.
J'ai pas l'impression qu'on en a eu beaucoup en livre ou audiobook. Puis moi, j'avais pas vraiment lu les Legends, fait que je pense qu'il était là-dedans, mais moi, je l'ai connu principalement à cause de Battlefront puis Empire Strikes Back, qui était là comme 10 secondes à peu près là, dans le film. Mm-hmm. Mais ça, j'étais contente de le voir dans l'audio-drama. Aussi la présence de Anne, Luke, Leia, C-3PO, tous les personnages qu'on connaît, c'était comme un petit plus à l'histoire. J'ai trouvé intéressant de connaître comment Vader a appris l'existence de Luke. Okay. C'est une scène que j'ai vraiment aimée. Puis aussi, quand elle va sur Naboo pour aller parler avec celui qui a, comme je pense, c'est embaumé Padmé quand elle est morte.
Ouais, ouais.
Puis que là, elle apprend qu'elle avait elle a eu un enfant, que c'est un fils. Puis c'est relié avec la scène que Vader y apprend l'existence de Luke.
Mm-hmm.
Puis j'ai aimé aussi le format de l'audio-drama qui était comme une. C'est comme les mémoires de Aphra. J'ai trouvé ça très intéressant.
Ben, excellent. Tu vois, moi, je m'étais noté les scènes allongées, justement, là, t'as parlé sur Naboo. Moi, je m'étais noté aussi la dénonciation avec l'Empereur. Donc, c'est des moments dans les comics là, qui passent peut-être un peu plus vite. Puis là, c'est ça, on a un petit peu plus de contenu. Tu sais, là, par exemple, avec l'Empereur, on a vraiment une discussion entre Aphra et l'Empereur, tandis que ça, on le voyait pas du tout dans les comics.
Mm-hmm.
Et je m'étais noté aussi plus de background sur Sanastaros. Un personnage que j'aime beaucoup, que j'aime à chaque nouvelle apparition, dans le fond, je l'aime de plus en plus. Au début, je trouvais ça un peu n'importe quoi, là, quand que ça était arrivé comme un cheveu sur la soupe, puis en disant qu'elle était la femme de Han Solo. Là. Mais c'est ça, petit à petit, c'est un personnage que j'ai appris à aimer. Et après les comics et le roman, comme j'ai dit tantôt, ben là, dans le fond, ça y fait un troisième médium, là, elle aussi, dans lequel elle apparaît. Donc, qui sait, on va peut-être la voir un jour en animé ou même en vrai, qui sait. C'est pas mal ça, côté spoilers. Pour moi, on a pas mal tout dit déjà là, dans nos critiques. C'est quand même de quoi que je conseillerais à la plupart des gens. Et dernier détail... comment dire, intéressant, c'est qu'on a aussi la critique de Danny, notre leader suprême, qui, lui, ne connaissait pas beaucoup Aphra. Dans le fond, il n'avait jamais pris les comics. Donc, c'est quand même, je trouve ça bien intéressant de voir son point de vue. Tu sais, c'est ça, de quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire, même le personnage, il ne connaissait pas vraiment. Fait que, est-ce que tu pourrais nous lire la critique de Danny, Cécile?
Oui. Mon approche à ce audiodrama est probablement différente de la plupart car je ne lis pas les comics Star Wars. Donc, les seules connaissances que j'avais sur le personnage sont celles que j'ai entendues d'autres personnes, à savoir, elle est archéologue intergalactique. Elle est gay, elle est accompagnée de deux droïdes aux tendances meurtrières, elle a croisé plusieurs personnages de la trilogie originale et elle a aidé Darth Vader. Je savais aussi que Jean-François n'aimait pas beaucoup le personnage. J'approchais donc cette histoire avec beaucoup d'intérêt en espérant avoir une histoire divertissante. Le personnage en tant que tel est très différent de ce que j'ai vu dans l'univers étendu. Je comprends pourquoi elle est bien aimée par les fans. Elle est une héroïne qui est très actuelle dans notre société d'aujourd'hui. Aphra a définitivement un certain talent et une intelligence, mais sa personnalité est vraiment over the top. Et excentrique. C'est un mix entre la détermination et le sérieux d'Indiana Jones, puis la folie et la nonchalance de Harley Quinn dans Batman. Et que dire des alter-ego cinglés de C-3PO et R2-D2 qui sont Triple Zéro et BT-1. Génial. J'ai trouvé l'histoire intéressante car je ne connaissais pas vraiment comment Vader avait appris l'existence de son fils Luke. Je voyais chaque petite side quest comme des épisodes de TV qui nous approchaient de plus en plus du dénouement et 17 de quelques liens avec la trilogie. Après avoir croisé quelques personnages connus, le Big Three m'a aidé grandement à apprécier l'histoire et le contexte dans lequel elle se déroule. Les flashbacks sur l'adolescence de Aphra m'intéressaient un peu moins au départ, mais m'a grandement fait apprécier le personnage et ses motivations. La présence de Sana Staros m'a complètement surprise et le flirt entre elle et Aphra m'a fait sourire. Je connaissais Staros seulement comme étant la fausse femme de Han lors du cliffhanger d'un comic qui avait fait jaser il y a quelques années. L'idée de présenter l'audiodrama comme étant les mémoires d'Aphra en cours d'enregistrement a aussi permis d'ajouter un certain niveau d'intimité et de réflexion interne que l'on ne pourrait pas nécessairement proposer dans une bande dessinée. La performance d'Emily Wu Zeller, la voix du Dr. Shelley Lona Aphra, était sensationnel et m'a fait sourire régulièrement. Tout comme celle de Triple Zéro. Le reste des acteurs vocaux de ce audio-drama sont aussi au sommet de leur forme et reconnaît plusieurs habitués des audiobooks dans cette distribution. Je ne sais pas à quel point cet audio-drama colle avec la BD Darth Vader, mais je l'ai apprécié par la simplicité de l'histoire et le pur plaisir d'écoute. Ce n'est pas une histoire ultra sérieuse comme la plupart des romans, et ça fait du bien. Sa note était de 17 sur 20 aussi.
Ouais, ben on peut dire qu'on est bien alignés.
Oui.
sur cette, c'est drôle parce que si on avait eu l'avis de Jean-François, j'ai l'impression que là, tout à coup, il aurait tout gâché notre belle unanimité de 17 sur 20. Mais bon, dommage Jean-François, il fallait pondre ta critique à temps. Et pour les intéressés, je vous suggère d'aller prendre notre capsule Star Wars 101 sur le Dr. Aphra sur YouTube ou Facebook, réalisée en grande partie par Cécilie, justement, et qui résume assez bien le personnage, là, le personnage dans tous les sens du terme, qui est Shelley Lona Aphra. Donc, sur ce, on va passer à la deuxième partie de notre émission sur un des plus récents romans Star Wars, donc Poe Dameron Freefall. Et je vais y aller tout de suite avec pas le résumé, mais la présentation de l'éditeur, le synopsis. Donc, cela fait quelques années que la mère de Poe est décédée, et Poe et son père ont de plus en plus de mal à s'entendre. Incertain de ce qu'il souhaite faire de sa vie, l'adolescent Poe s'enfuit de chez lui pour trouver l'aventure et pour découvrir quel genre d'homme il est destiné à être. Et côté détails techniques, le livre a été écrit par Alex Segura. Encore une fois, lui aussi, comme tantôt, c'est sa première participation à l'univers Star Wars. Donc, le livre se déroule cette fois-ci en plus 18, donc en 18 après la bataille de Yavin. Poe a 16 ans à ce moment-là. C'est un livre de 384 pages, donc en audiobook, ça fait aux environs de 8h15. Et si je te demandais, Cécilie, qu'est-ce que tu as pensé de Poe Dameron Freefall?
Ok, honnêtement, le livre m'a un peu déçu parce que je l'attendais avec impatience parce que son personnage m'a toujours intriguée et je m'attendais à quelque chose de meilleur que ce qu'on a eu comme livre. C'était divertissant, mais j'ai eu du mal à me concentrer tout au long de ma lecture. Je l'ai comme pas lu d'un coup. J'ai comme pris des pauses entre de plusieurs jours. Une chose que j'avais pris des notes tout au long parce que je pense que je m'en serais même pas rappelé. J'ai eu l'impression que l'histoire était un peu plus centrée sur Zuri que Poe, ce qui m'a déplu. Puis j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de quête importante dans l'histoire. C'était pas comme un main goal que du début à la fin.
C'est bon. De mon côté, qu'est-ce que je m'étais noté? Concept de base intéressant. Moi, j'aimais quand même l'idée de Poe à son adolescence, tout le concept, parce que dans le fond, on avait déjà eu un teaser, si on peut dire. De plus en plus, ils font ça, ils nous passent le premier chapitre, ou une partie, là, quelques semaines avant la sortie. Et je trouvais que même quelques mois, dans le cas de Poe Dameron Freefall, vu qu'il a été retardé. Puis, je trouvais que c'est ça partait bien, on était sur Yavin, tout ça, tu sais, fait que... c'est Poe Dameron en version jeune aussi, puis j'ai trouvé que c'était quand même assez crédible et convaincant. T'sais, moi, j'avais l'impression, effectivement, de voir un Poe Dameron comme on le connaît dans les films et les livres, mais en version encore moins expérimentée, donc encore plus fonceur là, et tête brûlée. J'ai pas tout noté, là, mais il y avait une tonne de références à la fois légende et canon dans ce livre-là. Mais tout le temps des affaires sans grande importance, là, mais tu sais, mettons des races, des créatures, des lieux aussi, des organisations, parce qu'on est un peu dans le monde criminel là, dans cette histoire-là. Des noms de chasseurs de primes, là, aussi à un moment, il y a comme une réunion de chasseurs de primes, et puis c'est tous des noms, puis que ça me dit quoi ce nom-là, puis effectivement, c'est ça. Donc l'auteur a quand même fait ses devoirs. Évidemment, l'opération réparation des conneries de J.J. Abrams est assez évidente. Et puis là, bon, peut-être que les fans finis de J.J. Abrams seront pas d'accord avec moi, là, mais c'est ça. On a noté que dans The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, il y avait certaines bizarreries scénaristiques par rapport à Poe Dameron. Ben, pas juste par rapport à Poe Dameron, mais entre autres par rapport à Poe Dameron. Tout à coup, là, ça disait qu'il avait été un passeur d'épices avant de rejoindre la Résistance, alors qu'on sait qu'avant d'être dans Résistance, il était dans Nouvelle République, en tout cas. Puis passeur d'épices, ça fitait moyennement avec sa personnalité, avec son côté là, héros par excellence. Donc, c'est ça, l'opération réparation sur plusieurs aspects, ça paraît, il y a quelques détails là-dedans, tu dis « Ok, ça c'est fait pour ci, ça c'est fait pour ça ». Mais, c'est ça. Au-delà de ça, faut passer par-dessus. C'est ça le concept du livre. Par contre, l'écriture, je m'étais noté un peu maladroite, dont au niveau de la rapidité des événements. Il y a des sauts dans le temps dans ce livre-là.
Ouais.
Que c'est comme, il y a des sauts dans le temps, mais on dirait que la situation avec Poe et avec Zuri n'a pas évolué dans le temps. Non, c'est comme si c'était rien passé. Mais c'est ça, c'est à dire, ça fait tant de semaines qu'il est avec les passeurs d'épices, mais il se pose les mêmes questions, puis il se passe la même affaire que la page d'avant. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Moi, l'organisation criminelle des passeurs d'épices, là, de Kid Jimmy, là, j'ai eu aucun intérêt pour l'organisation. Honnêtement, là, c'est pas. quand on a les pikes, les huttes, le soleil noir, tout ça, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté intéressant à aller dans ces organisations-là, mais là, cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était raté complètement. Même chose au niveau des personnages, j'ai trouvé que c'était peu intéressant. On n'avait pas vraiment envie d'en savoir plus, malheureusement. En partant, si je veux dire, quel antagoniste qu'il y a dans ce livre-là, je ne saurais pas dire c'est qui l'antagoniste du livre, honnêtement. C'est vraiment, là, il y en a certains antagonistes, mais c'est ça, il n'y a pas un antagoniste fort à l'histoire, tu sais. Puis quelle intrigue, un peu comme tu as dit, quelle quête, là, quel but. Il n'y en a pas vraiment, tu sais, c'est... Il y en a un, là, mais c'est ça, c'est pas une intrigue, là, qu'on est en haleine, là, tu sais, puis on a hâte de lire la page suivante. C'est malheureux, mais ouais, c'est comme ça.
Ouais, ça m'a déçu pas mal comme livre.
Ouais, si je te demandais une note sur 20 pour Dameron Freefall?
11 sur 20, qui donne 55%.
11 sur 20, je me demande si c'est pas ta pire note depuis que t'as rejoint Star Wars en direct, Cécile.
Ouais. Je pense que j'avais noté négativement A Crash of Fate.
Ah, ok, ouais, le livre.
Je trouvais inutile.
Il parlait pas de Star Wars du tout, là.
Ouais. Ouais. Je pense que j'avais donné 8 sur 20. Là.
Ben, écoute, une fois n'est pas coutume. En fait, je pense que ça va être la première fois aussi depuis qu'on fait des émissions ensemble. Mais cette fois-ci, je vais avoir une note un peu plus élevée que la tienne. Alors, d'habitude, c'est quand même.
Ouais, c'est l'inverse. Pas mal l'inverse. Ouais.
Donc, moi, j'y donnerais quand même un 13 sur 20, un 65%. Petit détail, je vais rajouter aussi à ma critique que j'ai oublié de mentionner. Au niveau scène d'action, tout ça, évidemment, Paul Dameron, c'est un pilote né. Donc, ouais. Il y a quand même beaucoup de scènes d'action. Là, j'ai trouvé quand même assez réussi. Mais certains diraient peut-être trop de scènes d'action. Que c'est ouais. Ça. Il y en a tellement qu'après ça, il n'y a plus rien d'autre autour. Là,
ouais.
Mais bref, on va passer à la partie spoilers. Donc, les gens qui n'ont pas lu le livre, qui ne veulent pas se faire vendre le punch, si on peut dire, parce que, en tout cas, c'est ça. Il n'y a pas une grosse intrigue dans ce livre-là. Mais je vous invite à faire une petite pause et à revenir plus tard quand vous aurez lu ce livre-là. Donc, Cécile, est-ce que tu peux nous faire un résumé spoilers?
Oui. Bon. Paul Dameron a perdu sa mère à l'âge de 8 ans. Elle était pilote d'un A-Wing ayant combattu contre l'Empire avec Han, Luke et Leia. Poe est un adolescent rebelle qui n'écoute pas son père. Son père, quant à lui, s'est renfermé après la mort de sa femme et a coupé tout contact avec son passé. Poe manque de mourir dans un accident qui lui a coûté le A-Wing de sa mère. Poe désire ardemment quitter Yavin 4 pour partir à l'aventure loin de sa planète natale. Après un argument avec son père en sortant de prison, Poe se sauve. Il arrive dans le bar de sa ville natale et il rencontre Zuri qui est de passage sur Yavin avec un groupe de voyageurs mystérieux. Zuri et son groupe ont perdu leur pilote qui a péri et ont besoin d'un nouveau pilote. Zuri offre donc à Poe le poste de pilote. Celui-ci accepte sans savoir dans quoi il embarque exactement. Le New Republic Security Bureau arrive sur Yavin 4 pour avoir pour mission d'attraper le groupe de passeurs de piste de Kiss Jimmy. Celaturne prend la mission de façon très personnelle car sa famille a péri lors d'une attaque des passeurs d'épices sur sa planète natale. Elle souhaite donc éradiquer les passeurs d'épices de Kijimi pour venger la mort de sa famille. Il tente d'intercepter le groupe de smugglers, mais Poe réussit à les sauver en se faisant passer pour un otage des passeurs d'épices. Poe apprend à connaître Zuri au fur et à mesure des missions avec les passeurs d'épices et se rend compte qu'elle a une vie assez compliquée. Tranquillement, Poe et Zuri commencent à nouer des liens ensemble. Trune finit par comprendre la ruse de Poe. Kiss Dameron ne la croit pas et s'inquiète de plus en plus pour son fils disparu. Poe commence tranquillement à regretter d'être un Spice Runner. Plus tard, on apprend que la mère de Zuri est en fait Zeva, la chef des Spice Runners. Puis, un peu plus tard, la mère de Zuri met sur pied un coup pour tuer tous les ennemis des Spice Runners. Poe tente de sauver les otages et réussit. Trune arrive sur Kijimi et s'en prend à Zeva. Elles se combattent ensemble et Zeva réussit à la poignarder. Par la suite, Zeva s'en prend à Poe, ayant découvert son plan et le blesse gravement. Zuri intervient et lui donne un ultimatum. Ils se sauvent ensemble ou ils fuient. Il se rend alors à une cantina où le barman lui offre à manger et le soigne. Par chance, le barman lui dit qu'un transport quittera bientôt Kijimi. En attente du transport, Poe voit un hologramme inspirant de Leia qui le fait réaliser son objectif. faire partie de la Nouvelle République. Et voilà.
On va tout de suite passer à l'aspect spoilers, là, côté critique. Toi, est-ce que tu avais des éléments à ajouter à ta critique de tout à l'heure?
Oui, que je perdais le fil un peu au cours de l'histoire, que j'ai trouvé mm-hmm. ça intéressant d'apprendre que Po avait appris à faire les sauts en hyperespace à ce moment-là, parce que dans le dernier film, au début, on le voit comme faire
des micro-sauts. Hein?
Ouais, c'est ça. Puis je me suis rendu compte que c'est la même chose. Donc, c'est à ce moment-là mm-hmm. qu'il avait appris à faire ça. J'ai trouvé que l'histoire au début avait un sens, mais que ça a perdu tout son sens quand Zuri est arrivé. Il y avait comme plus de mm-hmm. d'intrigue. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs parties de l'histoire où c'était comme des mini-cours d'histoire là, qui disaient bon, ben, quand l'Empire est tombé, bon, ben le commerce d'épices, il y avait plus de direction, donc les groupes essayaient de Spice Runner essayaient de s'approprier le contrôle. Ces mmh. trucs-là, j'avais trouvé ça intéressant. C'était comme des petits bouts d'histoire que dans les films, on savait pas, dans le fond. Ben, c'est ça. Il y avait pas grand-chose à rajouter, là. C'est juste... C'est un livre vraiment qui m'a déçu. C'est un des... Avec A Crush of Fate, c'est un... Je pense que c'est le deuxième roman, le troisième avec Master and Apprentice que j'ai mm-hmm. pas apprécié la lecture.
Ben écoute, le pire c'est que j'ai vu quand même certaines critiques positives sur Internet, là, sur des forums, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont beaucoup apprécié tout l'aspect le pilotage, là, puis bataille spatiale. Ouais. Parce que ça, effectivement, on en a quand même pas mal. Mm-hmm. Mais c'est ça, je vais redire ce que je disais en version non spoilers, mais tu sais, c'est qui l'antagoniste là-dedans?
C'est
l'agent de la Nouvelle République ou
tu sais, si ça on dit que c'est Eva aussi.
Ben c'est ça, si c'est la mère de Zuri, c'est parce qu'on la découvre à la fin, genre dans le dernier quart du livre, tu sais.
Ouais, mais c'est
en tout cas, c'est bref, c'est ça, livre un petit peu maladroit. J'ai quand même noté, je l'ai dit tantôt pour Dameron, j'ai trouvé qu'il était crédible, tu sais, qu'on y croyait. Ouais. Je dirais la même chose aussi pour son père et pour Lulo, que tu n'as pas mentionné.
Ah oui.
Mais qui est présent pas mal tout le temps avec son père. Donc Lulo, c'est un Duros qu'on avait dans la série de comics pour Dameron, qu'on avait dans les comics aussi, les ruines de l'Empire. Donc même chose pour son père. Hein. On parle de son père et sa mère depuis tantôt. Les gens qui n'ont aucune idée de qui il s'agit, c'est des personnages qu'on avait dans la série de comics Les ruines de l'Empire. Et qui sont de retour dans la série actuelle Star Wars, donc la série principale en comics, qui a repris là, l'hiver dernier. Là, on est dans le fond qui a repris au moment de la bataille de Hoth ou juste après la bataille de Hoth. Donc c'est ça, le père et la mère de Poe, vous pouvez le découvrir là-dedans. Et Lulo, c'est ça, c'est aussi un pilote, tout ça. Donc toute la vie de Poe, comme je disais, il était dans la série aussi Poe Dameron. Donc vraiment, là, jusqu'à la post-logie, il va être présent. Là, mm-hmm. La relation entre Poe et Zuri, t'en as parlé un peu, moi j'ai trouvé quand même intéressante et crédible. Je l'ai trouvé typique de leur âge aussi. Hein, ouais. Les deux qui ont comme l'illusion qu'ils vont pouvoir changer l'autre personne.
Ouais.
Elle pense qu'elle va le transformer en parfait criminel là, comme elle, puis lui pense que c'est l'inverse, il va la convertir... En héroïne, on va dire, tu sais, en bonne personne. Mm-hmm. C'est pour ça, quand tu disais dans le résumé spoilers, qu'il est autant. Dans le fond, il déchante autant là, quand il découvre que c'est la fille de la Big Boss.
Ouais.
Parce que là, il comprend que son plan de s'enfuir avec elle c'est peu probable que ça se réalise. Mais la relation entre les deux, je l'ai pas détestée. J'ai trouvé que ça fitait quand même bien des personnages dans ces âges-là. Mm-hmm. Je me suis noté la première adoption d'un droïde par Po. Hein, tiens, au début de l'histoire, les droïdes, pour lui, c'est vraiment des objets. Là, c'est des grippins. Il n'y a aucun intérêt, mais c'est ça, c'est le droïde. Je me souviens plus de son nom, tu l'as dit tantôt. Qui va vraiment développer une espèce de relation avec, là. Fait que ça aussi, c'est un peu de la construction, tu sais, pour éventuellement avec BB-8. Ben, je l'ai dit vite tantôt, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on commence sur Yavin 4. Dans le fond, c'est là que s'étaient établis les parents de Poe Dameron. Si on voyait ça dans un comics. Fait que j'ai bien aimé de découvrir la colonie. Donc, c'est ça, là, ils ont colonisé Yavin 4. relativement rapidement d'ailleurs, mais tu sais, c'est le fun là, qui se promène, c'est ça, quand même dans un village, tu sais, avec une cantina, etc. Et le petit peu qu'on a sur la Nouvelle République, j'ai quand même bien aimé. Hein, la Nouvelle République, c'est vraiment la période ou en tout cas l'organisation sur laquelle on a le moins d'informations dans la post-logie. Donc là, on en a quand même un peu, tu sais, entre le bureau de la sécurité de la Nouvelle République. On a des croiseurs Hammerhead aussi, des affaires comme ça. Fait que j'ai pas détesté. Et le personnage dont tu parlais, là, l'inspectrice, qu'on pourrait qualifier d'acharnée, qui mène vraiment sa croisade personnelle. Fait que je l'ai pas détesté, j'ai trouvé quand même bien développé, même si c'est pas un personnage que, tu sais, je voudrais absolument revoir dans un autre livre. Là. C'est un personnage attachant, mais en tout cas, j'ai trouvé quand même bien. Mm-hmm. Tu l'as dit après la présence de Babou Frick.
Ouais. Hein,
c'est le personnage que tout le monde s'est mis à adorer dès qu'il ouvre la bouche là, dans l'ascension de Skywalker. Moi, j'écoutais l'audiobook, là, puis je repensais au film. Avec et de tous les gens qui font une imitation beaucoup mieux que la mienne là, de Babou Frick, mais bref, j'ai pas détesté ça. Donc ça fait pas mal le tour côté critique. Fait que moi aussi, c'est certain, comme tu disais tantôt, il y a nos attentes, hein, puis le produit livré. Moi, pour Dameron, faut avouer que c'est pas comme si j'aimais pas le personnage. Je dirais que dans le nouveau Big Three là, avec Finn et Rey, c'est vraiment le personnage que je préférais. D'ailleurs, j'ai quand même beaucoup aimé les autres œuvres qu'on a eues sur lui, là, toute la série de comics pour Dameron qui était très bonne. On avait eu une nouvelle aussi dans Avant le réveil, on avait eu quelques... tout récemment, il vient de sortir le livre Renaissance. Donc, en anglais, c'était Resistance Reborn. Qui était excellent, là, qui était sorti l'automne dernier.
Ouais, il était bon.
Fait que, tu sais, le personnage, je l'aime bien. Mais c'est ça, il manque, dans ce livre-là, c'est plate, mais il manque un fil conducteur ou un espèce... Tu sais, là, le seul fil conducteur, c'est la fugue, si on peut appeler ça de même, là. On s'entend que c'est pas non plus un enfant, mais tu sais, genre de fuite de peau.
Ouais.
Puis est-ce qu'il va retourner vers son père? Mais tu sais, on le sait quand même un peu qu'il va pas faire toute sa vie comme passeur d'épices, parce qu'on a vu les films, tu sais.
Ouais.
fait que... C'est ça. Tu sais, le fil conducteur du livre, on peut dire que c'est ça. La relation avec Zori, c'est pas mal ça. Mais on est loin de des... Tu sais, il y en a eu d'autres livres de Star Wars avec des relations romantiques, là, mais super intéressantes. Là. Je pense à Étoile perdue, entre autres. Là. C'était vraiment, là... même pour quelqu'un comme moi qui est pas un fan fini des relations d'amour dans des livres, là, celle-là, c'était vraiment à conseiller.
Ouais, il était
mais vraiment... cette fois-ci, honnêtement... clairement, c'est pas la spécialité de l'auteur. Ça, on pourrait dire ça comme ça. Fait qu'écoute, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, outre ta déception, sur pour Dameron Freefall, on va conclure l'émission sur ses critiques, dans le fond, pour Dr. Aphra, relativement bonne, et pour Dameron, relativement moins bonne. Comme toujours, dans le fond, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur tout ce qu'on vient de discuter, ben, vous pouvez nous contacter par courriel à studio@swendirect.com. Évidemment, vous pouvez aussi passer par tous les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et compagnie, bien sûr sur Discord, ceux qui sont en onde vous le diront. Et n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour faire croître la communauté. Pour participer aux émissions, on vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Et pour montrer vos couleurs, on vous invite à aller voir notre boutique de Star Wars en direct. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web et de cliquer sur boutique. Côté émission à venir, Cécilie, qu'est-ce qu'on a dans les petits papiers là, qui s'en viennent?
Oui, on a Star Wars en direct, littérature sur les BD de Star Wars 10 et 11.
Mm-hmm.
On a aussi le Star Wars littérature sur les BD de Vader, Sombre Vision et l'Ascension de Kylo Ren.
Oui, et puis bon, on n'est pas planifié encore, mais comme le nouveau livre de Timothy Zahn est sorti hier, on peut, vous pouvez supposer que relativement bientôt, on va avoir une émission sur Chaos Rising à vous présenter.
Et il y a aussi, probablement au mois d'octobre, une émission gamer sur la sortie du jeu Star Wars Squadrons.
Mm-hmm. Ouais, ben ça, effectivement, je pense que non seulement une émission Gamers, mais il va peut-être avoir d'autres contenus aussi, par exemple un Star Wars Express ou des choses
ouais.
comme ça.
Ouais.
Donc, parce que ça s'annonce quand même comme être un certain événement. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'anticipation sur ce jeu-là. Donc,
ouais.
Et on rappelle qu'on est présent sur toutes les bonnes plateformes, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast, et on remercie une dernière fois nos partenaires, Mint Inbox, Star Wars Euronet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Et de la part de Cécilie et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la Force soit avec vous!